VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du mardi 14 avril 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoulia et Arnold Butson. Les titres.
En Guinée, au moins un mort et une dizaine de blessés hier à Conakry, dans des accrochages entre manifestants et policiers.
Tous les courants politiques burkinabés, dont les pro-Blaise Compaoré, doivent participer aux élections d'octobre, estime l'ambassadeur américain au Burkina.
Washington s'insurge contre la perspective d'une vente par la Russie de missiles anti-aériens S-300 à l'Iran.
Le premier ministre irakien à Washington pour des discussions avec le président Obama sur l'accroissement du soutien américain à l'offensive contre le groupe État islamique.
Et en politique intérieure, le sénateur républicain Marco Rubio a annoncé hier sa candidature à la présidentielle de 2016.
Ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Au moins une personne a été tuée et une dizaine d'autres blessées lundi à Conakry, dont plusieurs pare-balles dans des heurts entre manifestants et policiers. Moins de deux semaines après l'appel de l'opposition guinéenne à porter dans la rue le combat contre le président Alpha Condé, le professeur Ibrahima Baldé, directeur de la clinique mère et enfant de Conakry, a annoncé dans la soirée que Souleymane Ba, un des blessés admis dans l'établissement, était décédé. L'opposition avait annoncé en fin d'après-midi que le bilan provisoire de la répression s'élevait à une trentaine de blessés, dont sept par balles réelles et un dans un état critique. Le gouvernement et l'opposition se sont renvoyés la responsabilité de ces violences.
Le pouvoir s'indigne des propos des leaders de l'opposition qui incitent à la violence et à l'insurrection. Le ministère de la Sécurité a démenti que la police ait usé d'armes à feu. Il a lancé un avertissement ferme à ceux qui se livrent à des actes de vandalisme, tout en soulignant que les manifestations n'étaient pas autorisées. De leur côté, les opposants dénoncent des exactions sur des manifestants désarmés et appellent à poursuivre les marches jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Dans une déclaration du 24 mars à Paris, les leaders de l'opposition Sélou Dalène Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté avaient appelé à manifester contre l'inversion du calendrier électoral. La Commission électorale nationale indépendante a prévu l'élection présidentielle en octobre 2015 et les locales, qui n'ont jamais eu lieu depuis 10 ans, sont prévues pour mars 2016.
Tous les courants politiques burkinabés, dont celui favorable à Blaise Compaoré, doivent participer aux élections d'octobre, a déclaré lundi l'ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. Les précisions de Bagassi Koura.
Tulinabo Salama Mushinge, ambassadeur américain, a déclaré hier à Ouagadougou que c'est aux électeurs de décider qui seront leurs élus. S'ils n'aiment pas tel ou tel candidat, ils ne vont pas voter pour lui. Le nouveau code électoral promulgué vendredi exclut des élections les proches du président déchu. Ces scrutins prévus en octobre doivent doter le pays de nouveaux dirigeants suite à la transition mise en place après la chute de Blaise Compaoré en octobre dernier. Le ministre délégué à la coopération régionale, Moussa Nebié, a répondu que la loi électorale, je cite, ne vise que les personnes qui ont attenté à la Constitution jusqu'au bout de l'obstination. Fin de citation. Les anciens partis comme le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, anciens partis au pouvoir, ne sont pas exclus du jeu politique. Et le ministre de l'administration territoriale, Auguste Denise Barry, précise qu'une quinzaine de proches de l'ex-président, dont 4 anciens ministres et un ancien premier ministre, ont été interpellés pour malversation après des audits et certains prévenus ont été remis en liberté.
Les autorités de Kinshasa ont annoncé lundi qu'elles procéderaient bientôt à un enterrement groupé de cadavres entreposés dans la morgue de la capitale congolaise à la suite d'une polémique provoquée par la récente découverte d'une fosse commune qui alimente de nombreuses supputations. Les enterrements collectifs se font régulièrement à Kinshasa, a souligné le ministre de la Justice, Alexis Tambwe Mwamba, indiquant que les corps restant à la morgue centrale de la capitale, qui en comptait 168 samedi, seraient enterrés peut-être dans 7 jours, peut-être peut-être dans 10 jours, peut-être dans 2 semaines.
Monsieur Tambwe, qui s'exprimait devant plusieurs ambassadeurs étrangers et responsables congolais, est revenu sur la fosse commune découverte récemment à Moluku, au nord-est de la capitale de la République démocratique du Congo. Je ne parlerai pas de fosse commune parce que fosse commune suppose exécution, massacre, charnier. J'utiliserai le terme de tombe commune, a souligné le ministre. Dans un entretien à l'AFP, le premier ministre Augustin Matata Ponyo a déclaré qu'il y avait eu peut-être des erreurs administratives dans le processus de l'enterrement.
Au Kenya, 3 des 6 hommes qui ont participé en 2013 au viol collectif de Liz, le pseudonyme d'une Kenyane âgée de 16 ans, tabassée et laissée pour morte dans une fosse septique, ont été condamnés lundi à 15 ans de prison au Kenya, a annoncé une avocate de la victime, selon l'AFP.
L'affaire avait suscité un scandale au Kenya, car outre les détails abjects de l'agression, la presse avait révélé que 3 des violeurs présumés, identifiés par Liz, qui les connaissait, avaient été livrés par des habitants à la police qui les avaient relâchés après leur avoir simplement ordonné de débroussailler les abords du commissariat.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté lundi les participants aux négociations sur la Libye à se mettre d'accord sur un gouvernement d'union nationale pour mettre fin à la crise et à menacer de sanctions les fauteurs de troubles. Dans une déclaration adoptée par consensus, les 15 membres du Conseil ont pris note de la reprise du dialogue à Alger lundi et disent attendre avec impatience le prochain round de dialogue libyen prévu au Maroc le 15 avril. Ils se déclarent très inquiets de la poursuite des violences en Libye et demandent à tous les belligérants de mettre fin aux hostilités.
Les membres du Conseil rappellent à ce propos que ce dernier est prêt à sanctionner ceux qui menacent la paix, la stabilité et la sécurité de la Libye ou qui font obstacle à la transition politique dans le pays. Un nouveau round de dialogue interlibyen a repris lundi à Alger sous l'égide des Nations Unies. L'émissaire de l'ONU, Bernardino León, estimant qu'une solution politique à la crise en Libye était proche, selon l'AFP. Le pays est aujourd'hui dirigé par 2 gouvernements et parlement rivaux.
Les États-Unis se sont engagés à appuyer le projet de l'Union africaine de mettre sur pied à Addis Abeba l'équivalent des centres américains de contrôle des maladies d'Atlanta. C'est l'objet du mémorandum signé hier ici à Washington par le secrétaire d'État américain John Kerry et la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma. Les précisions d'Eddie Isango.
Les chefs de la diplomatie américaine a saisi l'occasion pour évoquer l'aide des États-Unis à l'Afrique, notamment les déploiements des soldats américains et l'octroi de plus $1 milliard pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Un appui qui se poursuivra avec les nouveaux projets de l'Union africaine, a dit John Kerry.
Dans le cadre du mémorandum, le CDC va offrir une aide technique pour offrir de l'aide aux groupes de réponse ainsi qu'un centre d'urgence et nous allons offrir des bourses pour des épidémiologues africains qui pourront offrir leurs services auprès du nouveau centre à Addis Abeba.
La présidente de la Commission de l'Union africaine a exprimé l'espoir que les nouveaux centres représentent pour l'Afrique.
De manière globale, la décision de l'Union africaine de se doter d'un centre africain de contrôle des maladies vise à renforcer les capacités des pays d'Afrique pour lutter contre les maladies, partager la formation, se doter de capacités collectives, non seulement contre Ebola, comme vous l'avez dit, mais également contre le VIH, la tuberculose, le paludisme et d'autres maladies.
Le mémorandum signé à Washington permettra de rendre rapidement opérationnels les centres d'Addis Abeba, a ajouté Mme Dlamini-Zuma.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Washington s'insurge contre la perspective d'une vente par la Russie de missiles antiaériens S-300 à l'Iran. Téhéran s'en réjouit. Les précisions d'Henri Francisque.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a exprimé ses objections hier dans un appel téléphonique à son homologue russe Sergei Lavrov. Ce dernier est d'avis que l'accord préliminaire avec Téhéran sur son programme nucléaire rend inutile la mesure de 2010 interdisant les exportations de missiles vers l'Iran. Mettre fin à cette interdiction pourrait entraver les efforts en vue de lever les sanctions internationales contre l'Iran, a averti Josh Earnest, secrétaire général de la Maison-Blanche. Notre opposition à ces ventes est ancienne et publique. Nous pensons que ces ventes n'aident en rien, a fait savoir de son côté le porte-parole du Pentagone, le colonel Stephen Warren. Pour sa part, l'Iran se félicite de la décision russe. Selon le ministre iranien de la Défense, que cite l'agence de presse iranienne IRNA, la livraison de missiles antiaériens russes et la coopération avec la Russie et les pays de la région pourraient contribuer à une sécurité durable.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi doit rencontrer aujourd'hui à la Maison-Blanche le président Barack Obama. Il va tenter d'obtenir pour son pays un plus grand appui aérien américain et de nouvelles livraisons d'armes estimées à des milliards de dollars pour leur combat commun contre les militants du groupe État islamique.
Au Yémen, un avion cargo de Médecins sans frontières transportant 15 tonnes de fournitures médicales a atterri hier à Sanaa, la capitale, alors que les combats se poursuivent dans cette ville tenue par les rebelles chiites Houthis et à Aden, dans le Sud.
Enfin, Marco Rubio n'a pas perdu de temps pour attaquer Hillary Clinton, qui dimanche avait lancé officiellement sa propre campagne pour l'investiture du Parti démocrate en la qualifiant de candidate du passé. Donc Marco Rubio qui a présenté sa candidature pour le Parti républicain. Ses collègues Ted Cruz et Rand Paul se sont déclarés ces dernières semaines.
Et maintenant, la Minute Éco avec Félix Yepassi-Zembro.
En Côte d'Ivoire, la troisième édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales, SARAL 2015, a été marquée par la signature de 8 conventions d'après le comité scientifique de la manifestation qui évalue à 38 milliards de francs CFA les retombées de ces connexions. Le premier ministre ivoirien Daniel Le Cablan Duncan s'est félicité de ce que le Sahara 2015 a été un véritable succès et le gouvernement s'engage à prendre toutes les dispositions pour faire la promotion de ce salon au-delà des frontières du continent africain. En République démocratique du Congo, les lampions se sont éteints sur le Forum national du développement de l'industrie et du redressement productif. L'une des résolutions est de relancer le tissu industriel congolais. Les industries et petites et moyennes entreprises profitant de cette occasion ont exposé des produits 100% congolais. Une exposante attend beaucoup de l'implication du gouvernement de la RDC.
On veut bien que le gouvernement puisse nous aider, nous appuyer dans ce qu'on est en train de faire et de nous donner des machines. Comme à Kinshasa, déjà le courant n'est pas stable. Et de fois, on utilise des morceaux de bois pour pouvoir faire ça et tout. C'est pas facile pour nous. On attend au gouvernement de changer un peu nos conditions de travail.
Une exposante au premier Forum national du développement de l'industrie, au micro de nos confrères de Top Congo FM. La Chine envisage de construire au Cameroun un centre météorologique à vocation continentale, a annoncé Wei Renhua, ambassadeur de la République populaire de Chine au Cameroun. Le Cameroun, qui figurait dans la shortlist de 5 pays africains pressentis pour abriter ce centre, a finalement été choisi pour être le lieu de développement de cette technologie sur le continent.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Bonjour Idrissa.
Championnat national de Côte d'Ivoire.
Oui, la phase retour du championnat national a commencé ce week-end avec la 14e journée. La SEC Mimosa prend provisoirement la tête du classement grâce à sa victoire 1-0 sur l'ASI d'Abengourou. La saignée continue pour le CO Sport, champion sortant, battu par la SOA 3-0.
En Europe, quart de finale aller ce soir de la Ligue des Champions.
Oui, deux affiches au programme. L'Atlético reçoit le Real pour un choc au madrilène, remake de la finale 2014. Atlético-Real, en plus d'être un derby, est en passe de devenir un vrai classique. Ce soir, les deux clubs madrilènes s'affrontent pour la 11e fois depuis février 2014, toutes compétitions confondues. Et pour ce choc, les deux équipes se présenteront au complet. Dans l'autre match, la Juventus Turin accueille l'AS Monaco de France pour un match entre voisins transfrontaliers. Seule équipe avec le PSG et le Bayern Munich à pouvoir réaliser le triplé championnat Coupe nationale C1, la Juve veut déjà retrouver un dernier carré de Ligue des champions qu'elle n'a plus fréquenté depuis 10 ans comme Monaco.
Et demain, la suite de ses quarts.
Oui, ce mercredi entreront en scène les 4 autres quarts de finalistes, les retrouvailles du PSG et de Barcelone qui se sont déjà affrontés en poule et un Porto Bayern où les Allemands seront un grand favori. Et puis Idrissa, pour terminer, la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Chicago 113, Brooklyn Nets 86, New Orleans 100, Minnesota 88, Oklahoma City 101, Portland 90, Utah 109, Dallas 92, Houston 100, Charlotte 90, Détroit 97, Cleveland 109, Milwaukee 107, Philadelphia 97, New York Knicks 112, Atlanta 108.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Pour commencer, revenons sur la mort du chef de l'opposition gabonaise, M. André Mba Obam, qui est décédé dimanche à l'âge de 57 ans après une longue maladie. Il avait été obligé de vivre hors de son pays à cause de ses ennuis de santé. À Libreville, comme nous le disions hier, l'ambassade du Bénin a été incendiée par des manifestants supposés être ses partisans dans les incidents qui ont éclaté dès l'annonce de la mort de l'ancien ministre de l'Intérieur, Omar Bongo. De la capitale gabonaise, notre correspondant Jean Rovis Dabani.
Ses partisans le savaient très malade. Le chef de l'opposition gabonaise est décédé dimanche à Yaoundé au Cameroun. Il laisse orphelin de nombreux fans. François Ondo Edo est le porte-parole de l'Union nationale.
C'est une perte énorme pour notre parti, pour l'opposition gabonaise et pour le Gabon tout entier, la disparition de M. André Mba Obam.
Tel un coup péré, l'annonce du décès du dernier ministre de l'Intérieur, Omar Bongo, a provoqué des heurts à Libreville. Dans un communiqué, le ministre de l'Intérieur, Guy Maître Mapangu, accuse l'opposition d'être derrière ces casses.
Nous avons des indices qui nous font penser sérieusement que ces gens ont agi sur les ordres des hommes politiques. Eh bien, même les hommes politiques, quelle que soit leur nature, quelle que soit leur taille ou leur gabarit, ben, ces gens aussi, si toutes les informations sont réunies qu'ils sont derrière cette affaire, ben, nous allons pouvoir faire respecter les lois en vigueur en République gabonaise.
Des accusations immédiatement rejetées par Zakari Mboto, cofondateur de l'Union nationale.
Il y a des actions ou des exactions qui se produisent et puis tout de suite on dit que c'est nous. Mais est-ce que le ministère de l'Intérieur peut le prouver? Ce sont des accusations très fortes, c'est mensonger tout cela.
L'arrivée de la dépouille d'André Mba Obam fait désormais craindre des tensions dans les quartiers populaires de Libreville et de l'intérieur du pays. La société civile, elle, appelle déjà au calme. À Libreville, Jean Rovis Tabani, pour VOA Afrique.
Au Togo, ce mardi marque le cinquième jour de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de ce mois. Pour citer notre correspondante sur place, l'opération de charme qui a débuté le 30 avril court jusqu'au 23 avril. 5 candidats sont en lice, dont le président sortant et le chef de file de l'opposition de Lomé. Le reportage de Kay Lawson.
La campagne électorale pour la présidentielle du 25 avril prochain au Togo a débuté le vendredi 10 avril 2015. Les candidats ont 14 jours pour séduire l'électorat qui est composé de 3 509 258 électeurs. Jean-Pierre Fabre, le candidat de combat pour l'alternance politique CAP 2015, qui a débuté sa campagne à plus de 600 km de Lomé, dit se battre pour l'alternance.
Le meilleur candidat, c'est Jean-Pierre Fabre. Votez pour lui, parce qu'il incarne l'alternance. Et surtout, comme je suis dans le Nord, j'explique également aux populations, il ne faut pas voter pour une personne en raison de son origine ethnique. Il faut voter pour une personne en raison de l'espoir qu'elle suscite pour vous, ou en raison de ce que vous sentez de sa capacité à améliorer les conditions de vie des populations et à édifier un état de droit.
Les militants du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD espèrent la victoire au soir du 25 avril. Le parti du candidat Mohamed Tchassona Traoré, au-delà des meetings populaires, veut miser sur le porte-à-porte.
On se bat coûte que coûte pour arracher cette victoire. On passera de porte-à-porte et on ira dans les marchés, dans les maisons pour convaincre les gens. C'est notre président, M. Tchassona Traoré, il serait proclamé président. Nous sommes sereins, on s'est préparé en conséquence.
Et il y a vraiment de la sincérité. Si je suis avec M. Tchassona, je suis serein. Que ce qu'il fera vraiment, ce serait quelque chose de beau, un Togo merveilleux. On veut vraiment du changement.
J'ai choisi M. Tchassona parce que j'ai travaillé avec lui. Il va gagner 100%. On va gagner 100%. 100%.
L'espoir, la jeunesse et la vitalité sont des concepts que le nouvel engagement togolais veut mettre en avant pour faire mouche. Dieri Tama, candidat du NET.
En plus de notre espoir, de par notre jeunesse et de par la vitalité de notre mouvement, en plus de notre espoir de créer un choc au niveau des populations togolaises et faire en sorte que nous puissions même créer la surprise, hein, nous sommes dans une situation de David contre Goliath, nous restons aussi réalistes en se disant, quelle que soit l'issue de ces élections, le NET doit sortir de ces élections en étant un grand parti, en mesure de se projeter sur 2025.
L'agriculture a une place importante dans le programme de société de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral. Et pour le démontrer, le candidat de Hadi a débuté sa campagne dans la région agricole du Togo. Nous écoutons le professeur Aimé Gogué.
C'est aujourd'hui que j'ai commencé ma campagne électorale en démarrant sur le plateau de Daï. Je tiens quand même à assurer à la population de Daï l'importance aussi que j'accorde à leur activité économique notamment. Le café représentait une grande culture pour le Togo. Malheureusement, depuis plusieurs années, les performances de la filière caféière et du cacao aussi ont beaucoup baissé, de telle sorte que leur importance dans l'économie a diminué.
Le leitmotiv du président sortant Faure Gnassingbé est le changement. D'aucuns diront le changement dans la continuité, car il sollicite l'électorat pour un troisième mandat. Henriette Amedjogbe-Kouévi, responsable de la zone 3 Lomé commune du parti Union pour la République Unie.
Unir voudrait démontrer à la face du monde que elle est vraiment unie derrière son président. Toute la population a eu le temps de voir les réalisations accomplies par le président Faure. C'est pourquoi nous nous disons qu'il y a un seul candidat à choisir le 25 avril prochain, c'est le président Faure. Nous le soutenons et ce que Faure Gnassingbé promet, c'est ce qu'il fait, le développement du Togo.
Les programmes de société sont presque les mêmes. Éducation, santé, économie, agriculture et sécurité se retrouvent dans les projets des 5 candidats avec quelques nuances près. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi 16 avril, le Mali, chronique d'une rébellion déclarée. Qui sont les principaux acteurs de ce conflit? Quels enjeux? Quelles solutions? Et surtout, quel avenir pour un pays tiraillé par des luttes ancestrales? Le dialogue est engagé, mais le gouvernement malien et la coordination des mouvements de l'Azawad tardent à se mettre d'accord. Dites-nous ce que vous en pensez sur notre page Facebook. Je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel.
Au Nigeria, cela fait un an que 276 lycéennes ont été enlevées par le groupe islamiste Boko Haram à Chibok, dans le nord-est du pays. Cet enlèvement de masse avait suscité une indignation internationale, politique et célébrités reprenant le slogan « Bring back our girls, ramenez-nous nos filles ». Malgré l'envoi d'experts internationaux en prise d'otage, personne n'a pu localiser les lycéennes de Chibok. Le responsable Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme, Florent Gell, revient sur cet enlèvement de masse et sur les raisons qui poussent Boko Haram à cibler les femmes instruites. Florent Gell.
C'est un triste anniversaire pour tout le Nigeria, démontrant que le combat contre Boko Haram continue encore aujourd'hui et que malgré le succès des élections présidentielles au Nigeria, il reste encore beaucoup à faire pour vaincre militairement, mais aussi socialement Boko Haram, pour faire en sorte que l'ensemble des personnes qui ont été kidnappées par Boko Haram puissent rentrer chez elles, mais que aussi on puisse désamorcer le phénomène Boko Haram sur le fond, c'est-à-dire faire en sorte que les inégalités sociales, les violations des droits humains cessent et que le nord du Nigeria puisse retrouver une stabilité, une normalité et évidemment la paix.
Un an sans avoir aucune nouvelle, est-ce qu'on peut encore avoir espoir que ces jeunes filles soient toujours vivantes?
On l'espère. Alors il y a des rumeurs comme quoi elles auraient pu certainement être exécutées. Selon les enquêtes que la FIDH a menées, c'est pas forcément totalement probant, puisque souvent les jeunes filles et les jeunes femmes qui sont enlevées par Boko Haram sont souvent mariées de force, deviennent souvent aussi des esclaves sexuels ou des esclaves au quotidien des forces fondamentalistes. Mais il y a tout lieu de croire et de penser qu'un certain nombre d'entre elles sont toujours en vie et sont toujours retenues contre leur volonté par les adeptes de Boko Haram. Et c'est pour cette raison qu'elles sont un symbole. Et il y en a aussi bien d'autres qui ont été enlevées, puisque selon les chiffres et les estimations que l'on peut donner, elles seraient plus de peut-être 2000 à avoir été enlevées. Ces femmes musulmanes ou chrétiennes retenues par Boko Haram aujourd'hui doivent pouvoir évidemment retrouver leur famille et une vie normale.
On a l'impression que Boko Haram cible vraiment les femmes.
C'est effectivement un des objectifs de ces mouvements djihadistes, c'est de cibler les femmes, car ils considèrent que les femmes doivent être mariées de force, gérer un foyer, ne pas avoir d'éducation. Elles doivent, selon eux, se conformer aux principes les plus ancestraux, les plus radicaux, les plus régressistes d'une interprétation passéiste de l'islam, à savoir que les femmes doivent en gros rester au foyer et procréer uniquement. Et dans ce cadre-là, dans cet objectif-là, effectivement, toutes les femmes, et particulièrement les femmes éduquées, sont une cible de Boko Haram. Et donc, évidemment, les femmes qui vont à l'école sont une cible prioritaire.
Florent Gel, responsable Afrique de la Fédération internationale des droits de l'homme. Les populations autochtones des pays d'Afrique centrale se sont réunies au Cameroun pour évoquer la promotion de leurs traditions, de leur langue et de leur culture respectives. Au Cameroun, les pygmées et les nomades bororo ont vécu reclus, rejetant les programmes d'enseignement classiques. Un reportage d'Edwin Kinzeka, repris ici par Lionel Gahima.
La communauté pygmée Baka d'Ngoïmo vit au cœur de la forêt de la région de l'Est du Cameroun. Elle en tire l'essentiel de ses moyens de subsistance. Chaque soir, les villageois se rassemblent dans la cour de leur chef pour écouter les histoires, griller et déguster le gibier capturé dans la journée. Ce soir-là, le chef Bengula Ngimo informe ses sujets qu'ils doivent, sur instruction du gouvernement camerounais, envoyer leurs enfants à l'école. Âgé de 58 ans, Angula David, père de 4 enfants, dit qu'il suivra la consigne gouvernementale à une condition.
Il y a l'école que nos parents avaient en forêt. Et c'est l'école-là que tu dois montrer ça à tes enfants. Pour qu'ils ne doivent pas oublier la culture de nos parents. Parce que la vie moderne et la vie traditionnelle, donc tous les deux, on doit emmener ça ensemble.
C'est la récréation à l'école publique de Mbinzi, un village situé à une trentaine de kilomètres au nord-est de Ngoïmo. Batula Roger est l'un des enseignants.
À mon arrivée à l'an 2009, il n'y avait pratiquement pas d'élèves Baka dans cette école. Je me suis mis à sensibiliser leurs parents pour qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école, pour les ramener, pour les faire savoir que l'école peut leur apporter quelque chose de plus dans la vie. Suite à la sensibilisation, nous avons eu presque une trentaine d'enfants Baka qui sont entrés dans cette école.
Parmi les enfants pygmées de l'école, la petite Bakola Lili, âgée de 9 ans, a des grandes ambitions.
Je viens à l'école pour apprendre à écrire et à lire. Je veux devenir la maîtresse.
Aïssatou Ibrahim représente un autre groupe, les éleveurs Mbororo. Les enfants de cette communauté ont peu de chances d'avoir des ambitions, comme la petite Bakola a-t-elle déploré lors d'une récente réunion tenue à Yaoundé sur cette problématique.
Les peuples autochtones vivent loin des autres communautés, ce qui rend difficile l'accès à l'école. Ils ont besoin de beaucoup d'espace pour mener leurs activités d'élevage, de chasse et autres. Nous avons besoin de terres, car c'est ce qui nous définit.
L'une des résolutions prises à Yaoundé vise à amener les leaders africains à connaître et respecter les droits des groupes autochtones. Adisarine Django, porte-parole de ces groupes. Tous les leaders africains considèrent tout Africain comme un autochtone, mais l'Union africaine a défini un certain nombre de caractéristiques particulières aux populations dites autochtones. Leur survie dépend entièrement de leurs ressources naturelles. Lorsque quelque chose affecte le milieu naturel, leurs moyens de subsistance, tout comme leur vie, sont complètement détruits. Sarine Django ajoute par ailleurs que ces groupes perçus comme populations primitives sont marginalisés. Les Nations Unies dénombrent à peu près 370 millions d'Autochtones dans 90 pays, 70% d'entre eux vivant en Asie.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique.
Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, sur la Voix de l'Amérique, en direct de Washington. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia, à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique, sur la Voix de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info.